Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Monnaie Livre. Bien, pour démarrer cette année 2014, je reçois notre chercheur en chef, notre économiste en chef sur Monnaie Libre, c'est Yolan Bresson. Bonjour Yolan.
Bonjour.
Alors Yolan, je t'ai invité pour démarrer cette année 2014, hein, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, comme on dit. C'est très important que tu interviennes régulièrement sur Monnaie Libre, parce qu'on va rappeler quand même que tu défends l'idée d'un revenu de base depuis 30 ans quasiment.
Hein, c'est ça? Oui. Ouais.
Et que tu avais en fait mis au point toi en tant qu'économiste, en tant que chercheur en économiste, tu avais démontré au sein d'une théorie la valeur temps. Qui avait un lien finalement entre le temps et ce qu'on pouvait définir comme un revenu d'existence, c'est comme ça que tu l'avais appelé à l'époque, et on utilise plus revenu de base aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce principe de cette théorie économique de la valeur temps?
Je vais essayer. Alors, le point de départ, c'est l'étude du marché Concorde. On nous avait demandé à toute une équipe franco-américaine d'économistes et d'économètres d'évaluer à quel prix on pouvait mettre le billet du Concorde sur Paris-New York. Et le Concorde faisait Paris-New York en 3 heures et donc faisait pratiquement gagner la moitié du temps sur le trajet. Et puis, on a utilisé toute une série de modèles traditionnels de l'économie avec les salaires et les revenus liés au temps de travail et les modèles habituels. Et aucun ne donnait des résultats satisfaisants. Alors on a passé par une enquête auprès de voyageurs potentiels. Et alors on s'est aperçu d'une chose, c'est que ceux qui étaient prêts à payer pour le Concorde étaient plutôt des personnes d'abord bien placées dans la hiérarchie des diverses entreprises, mais surtout qui avaient une certaine liberté dans l'utilisation de leur temps. Et au contraire, par rapport à l'idée qu'on s'en faisait a priori, ils avaient un temps contraint, c'est-à-dire imposé par le système dans leur agenda, pratiquement beaucoup plus réduit que les autres. Alors certes, leur agenda était bien rempli, mais en fait, il était rempli par des occupations dont ils choisissaient la fréquence. Et donc, ils avaient un temps disponible relativement élevé. Et on s'est aperçu que les revenus des individus étaient beaucoup plus liés au temps disponible qu'au temps contraint quand on partageait l'occupation journalière ou mensuelle ou annuelle entre une fraction de temps contraint, c'est-à-dire le temps contre lequel on ne pouvait pas échapper et qui était destiné à l'obtention des activités absolument essentielles et éventuellement imposées par le système et par l'environnement, et puis le temps disponible dans lequel d'ailleurs il y avait deux fractions, le temps libre au sens propre, et puis le temps personnellement contraint, et alors le temps personnellement contraint pouvant être occupé beaucoup d'une partie du temps libre.
D'accord.
Donc cette relation entre le temps disponible et le revenu corrélé positivement était en quelque sorte une nouveauté dans l'arsenal ou dans la préoccupation des économistes. Donc moi je me suis attelé à chercher quel était le lien théorique qui pouvait expliquer ce phénomène observé. Et donc progressivement, je suis arrivé à établir une sorte de loi, la loi même de la répartition des revenus individuels liés au temps. Et cette loi correspondait, lorsqu'elle était ajustée aux observations de la distribution des revenus individuels. Et il s'avérait que cette loi était totalement déterminée à partir d'une sorte de noyau, d'un code, d'un élément central, qui était une valeur étalon en quelque sorte, et que j'avais appelée la valeur temps. Alors, comment justifier et expliquer cette valeur temps ? eh bien, il faut imaginer que la société comme un corps, comme une personne en elle-même. Et nous sommes, nous, des cellules participant à l'activité de ce corps, dans sa croissance, dans ses échanges, etc. Et le corps tout entier doit sacrifier une partie de son temps, qui est donc le temps contraint, collectif en quelque sorte, pour obtenir les ressources minimales nécessaires à sa vie. Et il y a une sorte de battement, de rythme temporel, qui est un temps, au fond, d'inspiration, c'est le temps contraint, et puis un temps d'expiration ou de jouissance des ressources que le corps obtient pour satisfaire à sa satisfaction et à ses plaisirs. Et ce battement collectif, temps contraint, temps disponible en quelque sorte, rythme la vie de tout le groupe. Et sur ce battement collectif, chaque cellule, chacun d'entre nous, au fond, est dépendant de ce rythme, mais vit avec une harmonique par rapport à ce rythme. C'est-à-dire que on peut très bien avoir un temps disponible plus élevé et un temps contraint plus faible, ou un temps contraint plus fort et un temps disponible plus faible. Et le revenu qu'on obtient, la quantité de ressources ou de monnaie qu'on récupère, qu'on capte dans les échanges, est proportionnel au temps disponible. Plus on vit son activité et ses échanges à l'intérieur du corps social en dégageant du temps disponible, plus on bénéficie, on capte des ressources monétaires plus élevées. Et donc on a un noyau commun qui est la valeur temps, et puis chacun obtient des revenus proportionnels à ce noyau commun. Alors, et donc le coefficient de proportionnalité est déterminé par la proportion de temps disponible de chacun. Autrement dit, si on a deux personnes qui ont exactement la même activité, mais où l'un est plus efficace que l'autre, c'est-à-dire qu'il obtient la même quantité de produits en utilisant moins de temps contraint, il va bénéficier de plus de revenus. On retrouve les règles habituelles de la productivité, tout simplement. Oui. Et si on a, par exemple, j'offre quelque chose à la communauté, à l'ensemble des échanges, et que le temps que je consacre pour offrir cette activité remplit des quantités de temps considérables des autres demandeurs, et par exemple si je suis un chanteur professionnel qui dans mon heure de tour de chant remplit des heures d'auditeurs et de spectateurs, eh bien à ce moment-là je reçois une quantité de revenus considérable par rapport à tous les spectateurs, ce qui justifie d'ailleurs que certaines activités permettent d'obtenir des revenus très élevés par rapport à d'autres activités qui ne s'échangent pas de cette façon-là. Donc voici le principe en quelque sorte du mécanisme d'attribution ou d'échange qui permettent d'obtenir des revenus à partir de cette valeur commune. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cet étalon temps, qui au fond la mesure en monnaie de l'unité de temps de chaque cellule en quelque sorte, qu'elle s'active ou qu'elle ne s'active pas, eh bien c'est cela le revenu d'existence, parce que c'est un potentiel. Chaque cellule a potentiellement la capacité d'échanger du temps avec les autres, qu'elle s'échange ou qu'elle ne s'échange pas. Et donc, si on ne donne pas la quantité de monnaie nécessaire correspondant à ce potentiel, l'individu n'est plus en mesure de mettre en route ce potentiel et de transformer ce potentiel en échange effectif. Et c'est pourquoi il faut d'une part donner inconditionnellement à chacun cette quantité de monnaie fondamentale, ce revenu de base ou ce revenu d'existence, pour qu'il puisse commencer à échanger avec les autres. Et en fait, à enrichir la totalité des autres.
Bien sûr.
Et par conséquent, si on ne donne pas ce revenu d'existence, mmh. eh bien tout le monde s'appauvrit en quelque sorte.
Mmh.
Alors certes, il y en a qui bénéficient de plus de revenus, mais collectivement, on est plus pauvre que si on distribue ce revenu de base systématiquement et inconditionnellement à chacun.
Et alors, je crois que c'est très très clair, hein. Je crois que pour les auditeurs du podcast sur Monnaie Libre, bon, ils sont déjà un peu habitués au raisonnement un peu théorique, et je pense qu'effectivement la démonstration est limpide. Alors, je crois que tu aboutis aussi avec cette approche théorique qui est précise. Évidemment, on ne peut pas donner ici toutes les équations, mais il y en a, moi je peux le dire, je les ai vues, et elles sont extrêmement bien définies et décrites, il n'y a pas de problème avec ça. Et tu aboutis à la fin à même définir une valeur proportionnelle de ce revenu d'existence, je crois, en fonction du PIB. Hein.
Absolument, oui, ça représente à peu près entre 14 et exactement 14,4% en France, 14,4% du PIB. Ça permet de donner la mesure du revenu d'existence. Alors, ça s'interprète aussi les théories de la croissance endogène. Alors, les théories de la croissance endogène expliquent que l'activité économique et la production des richesses s'appuient sur un fonds collectif de capital matériel et humain social. Et donc sur ce fonds de capital matériel et humain social accumulé par nos ancêtres, c'est-à-dire les infrastructures, l'habitude des échanges, les connaissances, les compétences, le système de gouvernance, enfin tout ce qui fait le potentiel du champ économique dans lequel nous sommes insérés, sur ce potentiel, nous appliquons notre propre capital humain individuel qui multiplie les échanges dans le présent. Et donc, la part de la richesse collective qui est obtenue, et donc d'une part la rente, c'est l'équivalent du revenu d'existence, et d'autre part le reste, le complément, c'est l'ensemble des revenus obtenus dans le présent. Et donc, cette rente, eh bien, elle est le résultat de tout ce qui est accumulé dans le passé, dont nous héritons en quelque sorte, et qui justifie qu'elle soit également partagée entre tous, sans considération d'âge, de sexe ou d'activité.
Surtout
qu'on
se...
Il y a à la fois la mesure théorique du revenu d'existence à partir de la loi de répartition des revenus et la justification économique en matière de croissance économique et de croissance endogène.
Oui, et des justifications économiques, il y en a encore beaucoup d'autres, bien sûr.
Et il y en a d'autres,
mais si, quand on utilise un paradigme, on arrive toujours à un résultat qui dépend de ce paradigme-là, ce qui n'empêche pas de le retrouver selon d'autres points d'analyse.
Absolument. Oui.
Alors, bon, voilà, ça c'est pour notre partie théorique valeur-temps. Alors, je vais enchaîner parce que, évidemment, tu as préfacé, parce que je te l'avais demandé, parce que quand j'avais lu la valeur-temps, c'est Olivier Houbert qui nous avait fait nous rencontrer, et quand j'avais pris connaissance de cette théorie, je l'ai trouvée frappante tout de suite parce qu'elle était en plein dans mes travaux. Je retrouvais pas, évidemment, tout à fait la même, c'est même pas du tout le même des points de départ, mais je retrouvais les mêmes. On retrouve facilement, finalement, on arrive facilement de passer d'un référentiel à l'autre, j'ai envie de dire, voilà, entre la valeur temps et la TRM, puisqu'on retrouve des notions très proches, et ne serait-ce que la centralité du temps. Donc je vais parler un peu de la TRM que tu avais préfacée, pour rappeler un peu que le raisonnement est un peu différent, mais on aboutit à un résultat très très proche, pour pas dire semblable. La TRM, elle dit les choses un peu différemment. Elle part de postulats profondément, je dirais, logiques au départ, en disant, en fait, il n'y a pas vraiment de valeur économique, puisqu'en fait, chaque individu choisit ce qui est valeur ou pas. Donc, à la limite, on rejoint ta notion de potentiel. C'est-à-dire qu'on peut pas, on sait qu'il y a un potentiel économique dans chacun, mais on ne peut pas le nommer. Parce que si on le nomme, on ne nomme finalement que les valeurs du passé. On peut pas nommer ce qui est créatif, donc du coup on est coincé, on oblitère toute la partie de création individuelle en croyant que les valeurs sont les valeurs, disons, présentes, existantes, notamment au sein des entreprises existantes. Et on oublie tout ce qui se crée à chaque instant, en fait, finalement. Donc de ce fait, les valeurs sont relatives, on ne peut pas vraiment déterminer une monnaie correctement en tant que instrument d'échange commun à tous les membres de la zone monétaire, parce que c'est ça la définition que la TRM prend pour la monnaie. On a besoin d'un outil d'échange commun, sans quoi les échanges sont difficiles. On ne va pas revenir sur le troc et compagnie. Et cet outil d'échange commun, il doit être à la fois présent partout, mais pas trop non plus, puisqu'il faut qu'il garde une certaine valeur, bien sûr, mais qu'il ne soit pas non plus quelque chose qui soit absent quelque part, puisque dans ce cas-là, il ne joue plus son rôle de monnaie. Donc il ne peut jamais être totalement absent. Donc si on veut que déjà quelque chose soit jamais totalement absent, on comprend déjà que la création de monnaie ne peut jamais s'arrêter. Et de fait, dans l'histoire, la création de monnaie ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de moment où ça s'arrête véritablement. Il y a des passages où ça ralentit, il y a des passages où ça accélère, mais il n'y a jamais d'arrêt. Et après, elle dit, ben, en fait, il ne peut pas y avoir une monnaie qui soit créée au bénéfice de certains et au détriment des autres, puisque si on le fait sur la base de distinction des valeurs, eh bien, on impose certaines valeurs au détriment des autres dans une part incommensurable et pas acceptable dans une économie qu'on voudrait libre, d'où la notion de monnaie libre. Donc une monnaie libre, déjà, ne peut se créer que sur la base des individus. Et ensuite, la remarque, il dit, donc ça peut pas être créé sur une valeur, mais alors sur quoi d'autre? Et là, on comprend, en réfléchissant un peu, ben les systèmes d'échange locaux, ils ont compris ce principe de symétrie, puisqu'ils disent, toute personne qui rentre a droit au même crédit. Sans chacun. Sauf qu'ils oublient en faisant ça, parce que ça marche. Si on reste 1 an, 2 ans, 10 ans, ça marche très bien comme ça. Mais au bout de 80 ans, ça marche plus, parce que tous les membres du CEL sont morts et ont été remplacés au fil du temps. Ça s'est pas fait au bout de 80 ans, mais au fil du temps par des tout nouveaux membres. Or, évidemment, c'est pas pareil si on reçoit 100 alors qu'il y a 1000 de monnaie, que 100 dans 80 ans alors qu'il y aura 10 000 ou 20 000 de monnaie. Et c'est là qu'on comprend que cette création ne peut pas être fixe, ça ne peut être qu'un pourcentage de la monnaie. Après, la question qui se pose dans la TRM, qui est résolue par la TRM, c'était le point le plus difficile à trouver, c'est de relier ça véritablement au temps et au temps de vie humain. C'est ça qui va nous donner une limite. L'homme ne vit que 80 ans. Et là-dessus, la TRM aboutit au fait que si on veut que tout homme, pendant sa durée de vie, pendant ses 80 ans de vie au sein du système monétaire, reçoive la même part de monnaie qui naisse aujourd'hui en 2014, ou qui rentre dans le système en 2014, ou en 2094, ou en 2057, ou à n'importe quelle date, il faut que la somme de la monnaie qu'on va lui attribuer, parce qu'on ne va pas l'attribuer donc en une seule fois, on va distribuer cette monnaie, un petit pourcentage à chacun, il faut que cette somme soit la même pourcentage pour tous, et quelle que soit la date à laquelle il rentre. Et ça aboutit à une équation qui nous donne un pourcentage de la masse monétaire distribuée à tous, qui est de l'ordre, alors il y a une fourchette, parce qu'on peut... On peut cibler la demi-espérance de vie plutôt que la vie entière, il y a de bonnes raisons à ça. Et on a une fourchette entre 5,5 et 9% de la masse monétaire par an qui doit être allouée à tous. Ce qui revient encore là, c'est là où les deux théories se rejoignent, puisque on a qualifié finalement dans la monnaie un paramètre essentiel de distribution de la monnaie qui n'est basé sur quoi que qui est basé sur l'individu et son temps et le temps en fait. Voilà, on a que ces deux paramètres et tout le reste finalement c'est des justificatifs au final qui aboutissent à ce même résultat dans les deux théories. Voilà, donc bon, ça c'était pour rappeler. Donc je pense que c'est bien de comprendre que voilà, on a deux façons d'approcher le problème, une plus je dirais expérimentale, puisque toi tu as vérifié ça sur des données de sondage et des valeurs mesurables, etc., et tu as vu apparaître finalement cet élément là et sur la TRM c'est plus une approche profondément théorique et qui malgré tout arrive à un résultat similaire. Alors ça c'était notre point, je pense que c'était bien de démarrer par ça, je voulais démarrer par ça pour cette émission, cette petite mise en bouche théorique générale. Et moi je voulais dans cette émission, surtout que c'est le gros cœur de cette émission, puis on a une troisième partie, on parlera aussi des monnaies libres et le bitcoin, etc. Mais la deuxième partie, où là tu vas pouvoir étayer ce problématique-là, on est en 2014, on voit que les problèmes, notamment en zone euro, bon, pas qu'en zone euro, hein. On voit bien qu'en Chine, ça commence à être pénible aussi, aux États-Unis aussi, etc. Mais bon, on va parler à zone euro. Les problèmes deviennent extrêmement tendus. De plus en plus d'économistes semblent écouter, en tout cas, ils ont beaucoup plus la parole qu'il y a encore quelques années, comme Jacques Sapir propose de carrément sortir de l'euro. Beaucoup de voix maintenant commencent à dire mais finalement, l'euro, c'était pas forcément une bonne idée. Parce que les nations sont trop différentes, etc., etc. Et bon, il y a ceux qui veulent absolument pas sortir de l'euro et jamais entendre parler d'autre chose, etc. Bon, et alors toi, tu as une voix un peu différente qui est intéressante, je pense qu'il faut qu'elle soit entendue aussi, puisque tu parles d'une autre solution qui n'est ni la sortie complète de l'euro, ni le fait de garder l'euro contre vent et marée, mais en ayant cette idée de valeur temps, donc de revenu de base ancré en même temps, cette idée de d'avoir un euro franc. Alors voilà. Oui. Donc voilà. Donc je voudrais que tu nous parles de cette idée de l'euro franc.
Oui. Alors moi j'ai dit d'abord que l'optimum dans un système idéal, ce qui rejoint d'ailleurs ta théorie, ce serait que la banque centrale alloue directement aux particuliers, à chaque individu, chaque année, une part de la création monétaire. Exactement, distribue en pluie, en quelque sorte, le revenu de base ou le revenu d'existence à chaque citoyen, à chaque individu, puisqu'elle injecte chaque année un supplément de monnaie. Bon. Il se trouve que les banques centrales ne font pas cela, et que quand elles créent de la monnaie, elles le donnent aux banques, à l'ensemble du système bancaire privé. Elles leur prêtent à des taux extrêmement faibles, c'est quasiment du don, et elles-mêmes et ces banques reprêtent ensuite éventuellement par l'intermédiaire des marchés financiers aux États, puisque les États ont renoncé à leur souveraineté monétaire. Et par exemple, la Fed verse, le quantitative easing a versé 85 milliards de dollars tous les mois, mais par l'intermédiaire du système bancaire. Et là, elle aurait pu distribuer cet argent sous forme de revenus d'existence aux citoyens américains.
Oui, parce que là, donc, on a bien une distribution, finalement, arbitraire de la monnaie prétendue commune, en tout cas.
Ah bon, j'entends pas bien, là.
On a bien une distribution, ici, arbitraire d'une monnaie qu'on appelle commune, mais qui va en priorité au marché, ou éventuellement, on pourrait dire, aux États, via les bons du Trésor, puisqu'ils en rachètent plus ou moins directement. Mais ça se fait pas pour tous les Américains, alors que c'est leur monnaie, quand même.
Oui, d'accord. Alors, compte tenu du fait qu'on se trouve devant cet obstacle quasi institutionnel, mais non seulement institutionnel, mais intellectuel ou idéologique, qui veut que notre Banque Centrale Européenne ne changera pas d'attitude. Non. Compte tenu aussi du fait qu'il est clair que les différences d'évolution des économies européennes créent à l'intérieur de l'euro des tensions qui sont de plus en plus difficiles à supporter pour les diverses économies. Et donc, par exemple, il y a des pressions pour faire converger des politiques d'austérité pour les États du Sud par rapport aux États du Nord, etc. Et que ces tensions sont de plus en plus douloureuses pour les peuples et pas toujours justifiées, parce que si on avait chacun notre souveraineté monétaire, nous n'aurions pas ce genre de tensions, où elles seraient résolues par des mécanismes de régulation au niveau des changes. Donc ce qui justifie d'ailleurs qu'un certain nombre d'économistes demandent la sortie de l'euro. Mais si les États sortent de l'euro aujourd'hui, dans les circonstances d'aujourd'hui, les États et les peuples prennent des risques considérables de réajustement douloureux de leurs économies. Sachant aussi qu'à l'origine, quand on a envisagé l'euro, il y avait deux attitudes possibles. Il y avait l'euro monnaie commune ou l'euro monnaie unique. La plupart des économistes dont j'ai été penchés pour l'euro monnaie commune, en attendant que les économies européennes aient suffisamment convergé pour que on puisse avoir une monnaie unique à l'échelle de toute l'Europe. Et donc, il y aurait eu une phase, une période transitoire dans laquelle il y aurait eu deux monnaies, les monnaies nationales et puis la monnaie, l'euro, monnaie commune de dimension internationale en quelque sorte. Mais on a opté, les États ont opté pour la monnaie unique avec l'idée que la monnaie unique pousserait les États à converger plus vite que dans le cas où ils auraient opté pour une monnaie commune. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que ce choix était un choix peut-être un peu trop risqué, compte tenu de tous les événements économiques que nous avons connus. Et par conséquent, aujourd'hui, je me dis que la bonne solution, c'est de revenir à une situation intermédiaire où l'euro serait une monnaie commune et non pas unique, et où nous aurions à l'intérieur de la France une monnaie nationale française qui serait l'euro franc. Alors cette monnaie nationale française, elle serait à parité avec l'euro, donc 1 euro franc égale 1 euro. Elle aurait cours légal obligatoire, c'est-à-dire que chacun serait obligé d'accepter le paiement en euro franc. Les prix resteraient fixés en euros, donc tout l'environnement restera en euros. Cet euro franc ne serait pas convertible en euros, donc il n'aurait vocation qu'à circuler à l'intérieur du territoire national sans pouvoir être transformé en euros. Et j'ajoute que ces 7 euros francs seraient distribués, alors cette fois-ci, comme nous le désirons, sous forme de revenus d'existence auprès de chaque citoyen français. Et donc, je dis par exemple, au 1er janvier de cette année, enfin au 31 janvier, nous dirions, imaginons que le président Hollande dise ces jours-ci, eh bien, chaque citoyen français ouvre dans la banque de son choix un compte d'existence. Ce compte serait approvisionné en euro-francs. La Banque de France créerait les euro-francs en petites coupures et alimenterait les banques. Et donc, chaque citoyen français recevrait 400 euro-francs sur son compte. Avec ces euro-francs, cette monnaie nationale circulerait, il achèterait son pain, ses journaux, tous les biens offerts dans tous les réseaux de distribution, et tous les commerçants seraient obligés d'accepter ces euro-francs, sur quoi il y aurait la TVA, etc., il y aurait tout cela. Et donc, on aurait une sorte de circulation nationale en euro-francs, qui représenterait, alors c'est à peu près ce qu'on trouve dans la TRM, quelque chose comme de l'ordre de 10% de la masse monétaire globale en euros, et qui serait en euros francs. Alors, cela entraînerait toute une série de conséquences positives qu'on pourrait détailler, et voilà comment je verrais le système. Et alors, à ce moment-là, bien l'Italie ferait l'euro lire, l'Espagne ferait l'euro peseta, et même l'Allemagne ferait l'euro marque, la Grèce, etc. Et par conséquent, l'Europe aurait d'une part sa monnaie commune internationale qui resterait l'euro tel qu'il est, et dans chaque pays, il y aurait la capacité d'avoir du pouvoir d'achat local et de la proximité, des échanges de proximité et une activité économique interne ou nationale avec un pouvoir d'achat supplémentaires qui seraient ainsi distribués.
D'accord. Alors, je crois qu'on comprend très bien. Alors, évidemment, il y a plein de questions qui se posent.
J'entends pas bien.
Oui, là, ça va, tu m'entends, là?
Très peu.
Donc, je crois que là, il y a des questions qui se posent sur ce que tu viens de nous dire. C'est notamment, alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr, on va te dire, oui, mais alors, que deviennent les dettes de la France en euros?
J'ai pas bien compris la question, là.
Que devient la dette de la France en euros?
La dette de la France en euros?
Oui.
Ah ben, la dette de la France en euros, elle reste la même chose. C'est-à-dire que, l'avantage pour l'État français, c'est d'une part que toute une série de dépenses courantes de l'État pourront se faire en euros francs. D'abord parce que l'État va récupérer de la TVA en euro franc et va donc pouvoir dépenser des dépenses courantes ordinaires des administrations en euro franc. Ce qui veut dire que le budget en euros, les dépenses publiques en euros, seront diminuées. Et donc le déficit budgétaire en euros sera plus faible, et donc on aura réduit le déficit budgétaire. Le deuxième élément, c'est qu'à partir du moment où on distribue du pouvoir d'achat en euros francs, on supprime en particulier les allocations familiales, pour simplifier. Et donc on supprime en même temps les prélèvements qui se font sur les salaires en euros, pour le coût du travail en euros, des entreprises pour abonder les allocations familiales. Ça représente à peu près 35 milliards, c'est-à-dire qu'on donne un choc de compétitivité immédiat et assez significatif à l'ensemble du système productif français en euros. Et par conséquent, on met en situation l'économie française de capacité de croissance supplémentaire à partir du système productif. L'État français, l'ensemble des recettes fiscales, puisqu'on continue à verser les salaires en euros, et par conséquent, l'ensemble des revenus distribués en euros donne toujours les recettes fiscales en euros pour l'État. Et par conséquent, la dette de l'État, eh bien, est toujours, l'ensemble du budget de l'État est toujours servi en euros. Et par conséquent, l'État en peut éventuellement toujours emprunter en euros sur les marchés financiers, mais elle aura des besoins de financement beaucoup plus faibles. L'État aura des besoins de financement beaucoup plus faibles et des besoins d'emprunt sur les marchés internationaux beaucoup plus réduits.
D'accord. Alors, mais si les citoyens qui eux sont salariés, parce qu'il en reste quand même, donc reçoivent leur salaire en euros, très bien. Donc effectivement, parce que comme tu disais, l'euro franc lui sert aux revenus de base. Et mais si ces gens salariés le touchent aussi, bien sûr, parce que c'est un revenu de base inconditionnel, mais qu'ils font de plus en plus leurs dépenses ou leurs investissements d'ailleurs en euro franc. Et de moins en moins en euros. Dans ce cas-là, moins d'euros circulent, et ce qui est taxé par l'État, c'est des euros francs et non plus des euros. Et est-ce qu'avec ça, ils vont rembourser la dette en euros? C'est ça la question.
Ah bah oui, l'État continue à rembourser ses dettes en euros, il n'y a pas de problème.
Et avec les euros francs, ils peuvent le faire.
L'euro reste quand même la monnaie commune et internationale. Parce que les euros francs sont non convertibles en euros. Donc aucun Français ne peut utiliser l'euro franc à l'extérieur des frontières nationales.
D'accord. Donc oui, donc ça serait une monnaie véritablement, encadrée au niveau géographique, quoi. Il n'y aurait pas de fuite possible. En tout cas, elle serait il y aurait une désincitation forte à utiliser cette monnaie en dehors de la France. Parce qu'on ne peut pas jamais empêcher les gens vraiment de s'échanger la monnaie s'ils le veulent. Mais c'est sûr que si on les incite pas à le faire, ils peuvent le faire moins.
J'ai pas bien compris. Là, j'entends très mal actuellement.
Ah, d'accord. Bon, on a un problème de son. Et là, ça va mieux, là ?
Oui, voilà.
Mais non, je disais que si avec cet euro franc, les gens décident quand même de l'échanger à l'extérieur, parce que des gens qu'on cite, par exemple, imaginons, je sais pas, en Espagne, ils se disent, bah, les euros francs, c'est bien, je les prends parce que moi, mon fournisseur, il est à Marseille, à Toulouse, et lui, il accepte les euros francs, donc si vous me payez en euro francs, je les prends. Donc on ne peut pas vraiment empêcher les gens de vraiment le dépenser à l'extérieur. À moins tu veux dire que c'est l'aspect légal.
Oui, quand les gens vont à l'extérieur, il faut qu'ils aient des euros, hein, y a pas de problème. Mais ils auront toujours des euros parce qu'ils auront toujours des revenus en euros.
Non, mais euros francs, je parle des euros francs. On ne peut pas vraiment empêcher les gens d'utiliser leurs euros francs à l'extérieur non plus. Si ces euros francs ont un pouvoir d'achat légal en France, ils seront acceptés à l'extérieur parce que ceux qui vont les recevoir vont se dire, ben, je peux autant acheter en euros francs qu'en euros.
Répète un peu la question là.
Ben, si un Espagnol reçoit des euros francs et qu'il a ses fournisseurs en France, il va se dire moi des euros francs je les prends parce que mon fournisseur il les acceptera, donc je vais pas forcément prendre des euros. Les euros francs accepte aussi.
Le Français ne pourra pas payer un Espagnol en euros francs.
Ouais, mais qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire?
Parce que l'Espagnol ne pourra pas utiliser ses euros francs.
Tu veux dire que légalement, ça sera pas possible, c'est ça? Mais d'accord. Et tu penses que légalement, parce que c'est pas possible, ça empêchera les gens de le faire?
Ah non, mais il pourra toujours les accepter à condition de dépenser ses eurofrancs en France.
Ah ben là oui, il n'aura pas le choix, puisque ça sera accepté.
Ah, il n'aura pas le choix. Oui. Donc peu importe si tu veux, même si un Espagnol accepte d'être payé en eurofrancs, il faudra bien qu'il utilise les eurofrancs en France.
Oui, oui, d'accord, ok, oui, parce qu'il sera légal qu'en France, en fait, en tant que monnaie entre guillemets obligatoire, quoi. C'est ça qui va lui donner. Oui, oui, non, ça c'est un bon argument, hein, tout à fait. D'accord. Donc, effectivement, alors on peut rappeler d'ailleurs dans l'histoire, il me semble, je ne sais pas si tu es spécialiste de ce sujet-là, mais il y a eu, il me semble bien, y compris quand il y avait les monnaies pseudo-métalliques, il y a eu des moments de bimétallisme. Il y avait l'or et l'argent.
Oui, absolument, ça a été très très fréquent. Mais c'est d'ailleurs pour ça que on appelle l'argent l'argent.
Ouais.
Parce que il y avait la monnaie d'or et la monnaie d'argent, il y avait les pièces d'or et les pièces d'argent,
ouais.
Et puis la fameuse loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Parce que quand il y a deux monnaies comme ça, celle qui sert de réserve de valeur, celle dans laquelle on a le plus confiance et qui peut être capitalisée, elle est accumulée, eh bien c'était l'or, c'était les pièces d'or.
Oui.
Donc l'or était la monnaie du riche.
Oui.
Et l'argent était la monnaie du pauvre.
Oui.
Et était dépensé. Eh bien là, ce serait la monnaie capitalisable, ce sera l'euro. Et la monnaie de consommation, ce sera l'euro-franc.
D'accord. Il y a une autre façon de dire ce théorème. La mauvaise monnaie chasse la bonne, bon, si on veut. Mais je préférerais le dire de façon positive. Finalement, ce qui devient réserve de valeur perd sa qualité de monnaie.
C'est ça, de monnaie d'échange.
Voilà,
c'est monnaie courante.
Voilà, mais là c'est positif, parce que pourquoi dire, je crois qu'il n'y a pas de mauvaise monnaie, je crois que c'est normal que la monnaie, en fait, finalement, se dévalue régulièrement. Je crois c'est le phénomène naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de penser que la monnaie devrait, entre guillemets, garder sa valeur, ce qui n'a pas de sens d'abord absolu, puisqu'il n'y a pas de valeur absolue, et qui en plus enlèverait à cette valeur sa qualité de monnaie. Elle devient plus dense dans l'économie, puisqu'elle est stockée. D'ailleurs, on le voit bien, l'or aujourd'hui, tout le monde s'en fout.
Bah oui.
Je veux dire, en tant que. Alors, sauf les États ou les très grandes entreprises qui en ont des stocks, mais ça ne concerne effectivement que des réserves de valeur. Et encore, il faut-il qu'ils aient foi dans le fait que ce soit vraiment une valeur économique. Parce que, je veux dire, moi, je m'en fous de l'or, quoi. Je suis pas le seul, mais bon. Mais, non, mais il faut avoir foi en ça, parce que moi, rien ne m'oblige à accepter de l'or. Et bon, ça veut pas dire que je le refuserai non plus, mais je veux dire, c'est pas. Ça me court pas la tête, quoi. Je veux dire, c'est pas mon sujet. Alors, donc, mais je crois que oui, on a bien fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres points à dire sur cette crise économique? Est-ce que tu suis l'actualité récente? Comment tu vois les mois à venir? Et comment tu sens? Est-ce que tu sens ceux qui sont en train de préparer la sortie de l'euro, parce qu'ils ont fait des travaux dessus? Jacques Sapir a fait pas mal de travaux dessus. Dans d'autres pays, ils en font sans doute aussi. Est-ce que tu penses que cette idée de monnaie nationale à côté de l'euro peut prendre? Pour l'instant, il y a peu de monde qui parle de ça. On l'a entendu un peu. Hein. J'ai entendu cette idée. Mais pour l'instant, c'est encore timide. Comment tu sens l'avenir, quoi? Parce que ça a l'air de devenir de plus en plus crispant, quoi.
Ah bien, il est sûr que on est sur une ligne de crête en ce moment, que il va falloir trouver effectivement une solution, parce que tous les pays s'alignent économiquement et politiquement sur au fond le modèle, mettons le modèle allemand pour simplifier, hein, c'est-à-dire une forte réduction de dépenses publiques, tout le monde se serre la ceinture, et surtout les pays du Sud, comme l'Espagne et l'Italie ont déjà commencé, la Grèce aussi, et puis la France, il faut que la France s'y mette, et donc il semble que les vœux du président de la République aillent dans ce sens, tout simplement, et donc il y aurait une sorte de politique unique d'austérité. Et bon, et puis si les peuples le supportent, ce qui est combien de temps le supporteront-ils, je ne le sais pas. Et par conséquent, ça peut permettre de donner un peu de répit, mais il va falloir nécessairement que l'Europe, enfin les gouvernants européens, la Commission, les institutions européennes repensent d'une façon États européens et le système monétaire européen. Il y a nécessairement là du travail en cours en ce moment, ou bien l'euro va exploser, quoi. Je crois que on est vraiment sur la ligne de crête. Alors tous ceux qui préparent la sortie de l'euro, je crois que c'est quand même aussi quelque chose d'un peu aventureux. Ça aussi a des conséquences qui peuvent être très douloureuses, parce que la sortie de l'euro, ça supposerait que chaque pays reprenne une monnaie nationale, ça supposerait une dévaluation assez forte de la monnaie nationale, ça supposerait alors une explosion de la dette, parce que la dette, si on passe au franc, et que, mettons que la dette est exprimée en euros ou en dollars, eh bien, si le franc s'écroule, la dette va considérablement augmenter, exprimée en dollars, pas en francs, et par conséquent, avec les marchés aussi, les taux d'intérêt vont exploser, vont augmenter, et donc on va avoir aussi là une période d'ajustement qui peut être très douloureuse du point de vue du rééquilibrage. Donc, on est vraiment dans une situation très délicate. Et moi, je pense que la solution de la transition par la monnaie commune, quitter la monnaie unique pour passer à la monnaie commune, en attendant des jours meilleurs où les économies auront suffisamment convergé pour éventuellement revenir à une monnaie unique, me paraît être la solution la plus sage.
D'accord. Alors sur les dettes, il y a quand même un argument contre ce que tu viens de dire, au sens où j'ai entendu dire très précisément l'essentiel de la dette française, pour pas dire la totalité, c'est 90%, je sais plus combien, mais c'est l'essentiel, est libellé en droit français. Et en fait, donc ça signifie que en cas de changement de monnaie, cette dette devient libellée dans la nouvelle monnaie. Donc voilà. Donc faut le savoir. Donc ça veut dire que si on passait au
franc. C'est pas tout à fait exact. Tout à fait exact, parce que de toute façon, elle est détenue par des étrangers.
Ouais.
Et donc, de toute façon, les étrangers vont se débarrasser de leurs dettes, vont essayer de les titres français. Ouais. Ils vont essayer de vendre très vite les titres français.
Ouais.
Et par conséquent, les taux d'intérêt vont augmenter considérablement.
Oui.
Et donc les répercussions risquent d'être fortes aussi.
Ouais, on peut les racheter si les taux montent, ça veut dire qu'en fait leur prix facial baisse. Et donc la France pouvant de nouveau émettre du franc, vu qu'elles sont maintenant rachetables en francs.
Ah bah oui,
elle peut les racheter
effectivement. Bien sûr, elle pourrait être rachetée par l'État français.
Pas cher en plus. donc ça peut être une bonne façon de. C'est un peu ce qui se passe quand il y a des dilutions dans les entreprises aussi. Hein.
Oui, bien sûr, c'est possible ça. Bien sûr.
En augmentation de capital. Voilà. Alors bon, on arrive à la fin de cette première partie, même si on reviendra peut-être sur quelques points dans la dernière, mais dans la deuxième partie, on va aborder avec toi, Yolan, maintenant un troisième point important, c'est les monnaies alternatives, et on va discuter un peu du Bitcoin et puis aussi d'autres monnaies, et bien sûr du revenu de base associé à ces nouvelles monnaies, avec les problèmes que ça peut poser et les solutions qu'on peut envisager, en tout cas la façon d'interpréter ce qui peut se passer. Donc on se retrouve juste après une première pause sur Monnaie Libre.
Librement le temps d'une nuit, Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte.
Braver l'amour
voilà, de retour dans Monnaie Libre, toujours avec Yolande Bresson. Donc on a vu dans notre première partie, on a fait un petit rappel théorique hein, sur la valeur temps de Yolande. Donc vous pouvez trouver d'ailleurs hein, la biographie de Yolande sur Wikipédia avec toutes les références sur ces modèles théoriques valeur temps. Et on a aussi parlé de la théorie relative de la monnaie qui aboutissent tous deux à un même résultat qui est que la monnaie devrait intégrer une part de revenus de base inconditionnelle pour les citoyens membres de cette monnaie qui dépend du temps essentiellement, de leur temps, alors temps libre pour la valeur temps ou simplement temps d'existence, temps de vie, espérance de vie pour la théorie relative de la monnaie. Ça c'est le résultat après le développement théorique, on l'a rappelé un petit peu en première partie. Ensuite on a vu, je rappelle, la solution de l'euro-franc, enfin en tout cas d'avoir une bimonnaie finalement, de revenir à un système de bimonnaie ou d'aller vers un système de bimonnaie pour l'euro, pour essayer de sortir de l'ornière, qui est une solution prônée par Yolande, qui est de dire, bon, ben, on garde l'euro, mais les États reprennent la main, notamment via un revenu d'existence, via un revenu de base, avec des monnaies nationales, euro-franc, euro-lire, l'euro-peseta, de façon à retrouver une sorte de bimonnaie, un peu comme on a eu le bimétallisme à l'époque des monnaies métalliques. Et donc dans cette troisième partie, on va aborder un autre phénomène qui est un peu lié à la crise, hein, à mon avis, hein, dans mon sens, c'est lié à ce moment de crise particulier, puisque depuis 2007, 2008, 2009, deux nouvelles monnaies apparaissent, depuis que, d'ailleurs, j'ai moi-même écrit la théorie relative de la monnaie, où j'avais un peu déjà annoncé cette convergence qui a l'air de se poursuivre, hein, une multiplication des monnaies alternatives. Alors la plus célèbre, c'est le Bitcoin. On peut en citer d'autres, hein, il y a le Frycoin, il y a le Litecoin, il y a tout un tas de monnaies dérivées du Bitcoin. Bon, c'est quasiment le même code avec quelques petites modifications. Bon, c'est plus ou moins intéressant, mais bon, voilà. Et puis il y a d'autres monnaies qui se développent aussi sur des systèmes un peu plus centralisés à base de Cyclos, le logiciel libre, ou OpenUDC, qui est un projet logiciel libre qui se développe depuis 2 ans maintenant, qui avance bien, et qui lui est un projet de monnaie alternative à dividende universel, donc à revenu de base, et où la monnaie se crée que de cette façon-là. Alors je crois que là, Yolande, toi tu... alors évidemment comme tu travailles sur les monnaies étatiques, on va dire, hein, ou même supra-étatiques pour l'euro, les grandes monnaies, quoi, les monnaies dominantes, on va dire... tu te poses des questions sur ces monnaies alternatives et tu vas rappeler les critiques que tu fais sur cette possibilité d'avoir des monnaies alternatives fondées sur un revenu de base.
Le vrai problème de la monnaie, c'est la dimension de la communauté d'acceptation de paiement.
Bien sûr.
Qui accepte la monnaie comme référent, cette monnaie comme référent. Alors, il y a toutes les monnaies alternatives, les selles, etc., qui sont effectivement des monnaies où les communautés d'acceptation de paiement sont très limitées. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir des expériences locales, mais ce n'est pas avec ce type de monnaie qu'on va pouvoir changer véritablement, fondamentalement, le système collectif à l'échelle du monde, à l'échelle des États, puis à l'échelle du monde. Bon. Et donc, je passe directement, à la communauté d'acceptation de paiement des monnaies existantes, des monnaies nationales ou des monnaies comme l'euro, européenne, etc., ou internationale.
Bon. D'accord.
Reste quand même, là où je suis plus partagé, ce sont les monnaies alternatives de genre Bitcoin, Internet, etc., les monnaies à code là, comme ça, que je ne maîtrise pas bien d'ailleurs, parce que je vois mal qui crée la monnaie, le code, on dit que le code est défini, et je ne maîtrise pas bien parce que bon, je suis un peu trop âgé pour vivre à l'aise dans le monde de l'informatique, mais ces communautés de paiement, ces communautés d'acceptation de paiement pourraient être effectivement très larges. Parce que à ce moment-là, on pourrait même transcender les États et avoir des monnaies de ce type qui sont directement à l'échelle planétaire. Je pense que ces monnaies-là et ces monnaies émergentes par le biais de l'informatique peuvent, et des systèmes d'aujourd'hui, Internet, etc., peuvent effectivement bouleverser le système.
D'accord.
Et je dirais même que si elles s'introduisaient à partir de la notion de revenu de base ou de dividende universel, etc., ce serait vraiment quelque chose de fondamental.
Alors là, bien sûr, là tu rejoins forcément les conclusions ultimes de la TRM en fait.
Absolument. Et je me dis que c'est peut-être un levier essentiel pour transformer notre système économique mondial.
D'accord.
On peut peut-être passer par là. Reste que actuellement, il y a comme dans ces systèmes une partie d'instabilité dans la valorisation de type un peu spéculatif. Il n'y a pas encore les modes de régulation qui se sont spontanément établis dans le système.
D'accord.
Et là je me dis il faut réfléchir à ces modes de régulation qui donnent une certaine stabilité à la valorisation. Parce que s'il n'y a pas la stabilité dans la valorisation, alors ces monnaies ne réussiront pas à se diffuser.
D'accord. Alors, très bien. Alors, je crois que c'était important. Voilà, je voulais aussi, dans cette émission, que tu donnes ces points que j'avais déjà notés, puisqu'on en avait parlé un peu dans une émission très rapidement. Bon, c'était sur la fin. Puis bon, dernièrement, on s'est retrouvé sur une autre émission de radio, un peu par hasard. Et tu avais réémis ce doute et ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je pense que ces questions, il faut y répondre. Alors bien, moi j'ai des réponses. Alors bon, elles valent ce qu'elles valent, mais je vais te les donner quand même.
Oui.
Et peut-être ça va permettre de prendre un peu de recul sur ce qui se passe et ça va donner un certain nombre de réponses. Alors, tout d'abord, ton questionnement, c'est de dire aussi. Alors voilà, je me mets d'abord sur le modification qu'on peut faire à l'échelle du monde, à l'échelle des États. Alors ça, c'est sûr, c'est plus général. C'est une problématique de savoir comment je vais transformer un système. Est-ce que je prends un système existant pour se le faire bouger ou est-ce que j'innove? Alors, il n'y a pas de règle. Ça peut être un cas comme un autre. Par exemple, quand on fait la Révolution française, on change de système existant, carrément. On n'en a pas inventé un autre qui s'est développé tranquillement de son côté et tout. Non, ça a été brutal. Donc, il n'y a pas de règle. Et parfois, c'est plus lent. Par exemple, le Minitel était dominant en France. Et qu'est-ce qu'il a petit à petit grignoté et remplacé? C'est Internet. Et de façon indépendante, voilà. Et pour quelle raison? Parce qu'Internet est plus symétrique que le Minitel, qu'il ne l'était pas du tout. Il était centralisé. Pour créer un serveur sur le Minitel, il fallait demander à France Télécom. Alors sur Internet, chacun crée son serveur comme il veut, indépendamment d'ailleurs de son fournisseur d'accès. Et c'est symétrique, on est autant émetteur, la preuve cette émission, on émet monnaie libre autant qu'on consomme de l'information. Donc on est tous autant producteurs. Là, on voit sur Internet d'ailleurs à quel point finalement, l'ensemble des individus est producteur d'immensément de valeur. Internet est un révélateur pour moi, justement, de quelque chose que j'avais intégré depuis longtemps avant. Bon, je suis sur Internet aussi depuis presque le début, donc forcément, ça aide. Donc il y a deux façons de faire. Donc, elles ne sont pas forcément antinomiques. Elles se font peut-être la course, et à la fin, il peut y en avoir une qui gagne, ou elles peuvent coexister pendant un certain temps aussi, voire même coexister pendant très longtemps. Donc il n'y a pas forcément, et je crois qu'il ne faut pas forcément déjà de ce point de vue, opposer les approches. Dans l'économie, ça se passe des deux façons. Les entreprises soit mutent, soit sont remplacées par des nouvelles. Et ça veut dire quand elles mutent, qu'on les a changées à leur échelle globale, comme IBM. IBM a fait des révolutions dans son organisation, sans quoi elle serait sans doute morte comme entreprise. Elle est passée d'un constructeur de machines à un fournisseur de logiciels. Et c'est pas du tout une petite transformation. Les actionnaires auraient pu décider de laisser tomber IBM en tant que constructeur de machines et de créer de nouvelles entreprises. Bon, c'est pas ce qu'ils ont choisi pour sans doute de bonnes raisons. Alors, donc j'ai à comprendre cette double possibilité. Donc, ils sont pas forcément antinomiques. Alors ensuite. Sur le Bitcoin, pour parler de lui, parce qu'il a montré la voie en tant que première monnaie fondée sur le chiffrage, en fait, ce qu'il faut comprendre dans le Bitcoin, je pense, le point essentiel, c'est qu'il est fondé sur les mathématiques. Il est fondé sur les mathématiques avec la notion de clé de chiffrage public et privé. C'est un procédé mathématique qui consiste en gros à dire, voilà, vous pouvez m'envoyer un message en le chiffrant avec ma clé publique, mais seul moi, avec ma clé privée, je peux le décoder. Alors le principe mathématique, je vais le donner sur un exemple, mais c'est un peu cet exemple, c'est le principe, c'est même, je ne sais pas le détail exactement, mais je pense que c'est basé là-dessus, c'est le principe des nombres premiers. Tu connais les nombres premiers ?
Oui, oui.
Et en fait, il est très difficile de factoriser un nombre en nombres premiers, parce qu'il faut tous les tester. On n'a pas d'algorithme pour trouver les nombres premiers dont est constitué un nombre, il faut tous les tester. Donc si j'ai en fait deux très grands nombres premiers, et que je les multiplie entre eux, j'obtiens un très grand nombre. Et ce nouveau grand nombre, si quelqu'un veut le factoriser, il va être obligé de prendre tous les nombres premiers jusqu'à ce que ceux que moi j'ai trouvés.
Oui.
Et ça peut lui prendre 10 milliards d'années en fait. Voilà.
Oui.
Alors que moi je les connais ces nombres. Et donc quand moi je vais vouloir décoder un message qui a été chiffré avec le produit de ces nombres, je vais pouvoir le faire parce que moi je les connais.
Oui.
Donc moi je ne lui ai donné que le produit et je connais les facteurs.
Oui.
Et celui qui a les produits n'a pas le temps matériel en fait de trouver les facteurs. C'est ça l'idée.
Oui,
voilà, c'est-à-dire les algorithmes, on les connaît pour déchiffrer, sauf que le temps d'application, c'est plusieurs fois l'âge de l'univers.
Ouais,
donc
là,
donc du coup, en pratique...
Mais comment ensuite tu décodes privé ? Ça, c'est l'émission du code public.
Oui, alors ce modèle-là fait que chacun, finalement, avec sa clé privée aussi, peut chiffrer quelque chose, et c'est pas déchiffrable, puisque personne connaît la clé privée. Donc on peut s'approprier des bitcoins en les chiffrant. Voilà. Je les chiffre avec ma clé, personne ne peut les déchiffrer. Et si je veux le transmettre à quelqu'un, je dois le déchiffrer d'abord et je le chiffre avec la clé publique de celui qui veut le récupérer.
Oui,
et après, lui, il le chiffre avec sa clé privée. Voilà, je schématise, hein, je raccourcis. Mais voilà, c'est ça le principe. Donc en fait, c'est verrouillé mathématiquement. Après, à la limite, informatiquement, c'est presque, j'ai envie de dire, un détail, une fois qu'on a compris ça, même si, bien sûr, c'est pas un détail et qu'informatiquement, là aussi, les gars qui ont fait ça sont quand même assez forts. Donc c'est oui. Alors et après le système Bitcoin il tient parce que c'est le réseau tout entier des logiciels qui communiquent entre eux qui rajoute un chiffrage sur l'ensemble des Bitcoins qui sont générés ensemble.
Oui.
Donc chacun en fait a une copie de la masse monétaire chez lui qui est entièrement chiffrée pour les uns et les autres, ne peut décoder que les Bitcoins qu'il a lui, les autres il a que des chiffres auxquels il comprend rien. Et cette base de données, elle est partagée par tous, ce qui fait que quand un mouvement est fait dans la base de données, elle est communiquée de proche en proche à l'ensemble du réseau Bitcoin. Donc la valeur du Bitcoin, en fait, repose sur la solidité du réseau. Donc en fait, plus il y a de machines interconnectées entre elles, j'insiste sur le mot machine, hein, parce que du coup, qu'il y ait 1000 machines et 2 individus, ou 2 machines et 1000 individus, c'est la même chose. C'est pour le réseau. Donc la monnaie Bitcoin ne tient pas compte du tout de l'humain dans son mécanisme.
Hein.
Donc, mais plus il y a de machines interconnectées entre elles qui gèrent le réseau Bitcoin, plus ce réseau est indéchiffrable. Plus il est puissant, plus l'algorithme va loin dans le calcul de ces algorithmes de chiffrage et plus c'est impossible à déchiffrer. Donc, du coup, la solidité augmente avec le nombre de participants. Voilà. Donc voilà comment on gère ça. Après, la masse de Bitcoin totale, elle est limitée, 21 millions. Alors ça, ça va rejoindre le problème qu'on citait au début. Ça va en faire une réserve de valeur à terme. Et donc, elle va, après sa phase d'expansion, il va forcément devenir de plus en plus une réserve de valeur, donc perdre sa qualité de monnaie. Donc, et jusqu'au jour où de moins en moins de gens l'utiliseront et seront passés à autre chose et l'auront oublié, en fait. Donc, il finira par avoir fait payer les derniers entrants, puisque n'ont créé des bitcoins finalement que les premiers qui sont arrivés dans le réseau. Parce que le bitcoin se crée aussi sur le fait qu'on rejoint le réseau. Plus on participe du chiffrage de la chaîne et plus des bitcoins sont générés au bénéfice de celui qui fait les calculs. Voilà en gros, ça c'est le principe général. Bon voilà, alors après, donc c'est parce que pourquoi les gens l'ont accepté comme moyen de paiement, parce qu'il permet justement de se passer du contrôle étatique, du contrôle des états, de pouvoir faire des échanges anonymes, voilà, tout un tas de qualités, bon, mais qui concernent les gens qui l'ont utilisé. Et pour l'instant, il a quand même atteint la valorisation globale, si on tient compte des échanges aujourd'hui. Alors, avec des remous, hein, bien sûr, mais il est passé de zéro. Alors, de zéro à quelque chose, on est toujours à l'infini, hein, parce que à partir de zéro.
Oui, comment se détermine son taux de change par rapport aux monnaies normales ?
Ah, uniquement sur le marché. Donc, c'est uniquement ceux qui veulent... les gens acceptent les bitcoins. Donc, petit à petit, la valeur, finalement... si tu veux, la valeur se consolide au fur et à mesure que les premiers échanges se font. Au début, bon, on te dit, voilà, moi je suis prêt à te donner un bitcoin pour 2 euros. Bon, 2 euros, les gens le font. Donc très vite, si tu veux, pour des petites valeurs, la petite valeur se marche. Et puis au fur et à mesure, plus de gens en ont, il y a des gens qui en veulent parce qu'ils s'en servent pour des échanges. Ils sont prêts à les acheter un peu plus cher, puis un peu plus cher, puis un peu plus cher. C'est le mécanisme du marché. Et ça, parfois, ça arrive trop cher. Et après, dernièrement, il y a eu une crise du bitcoin. Mais malgré la crise du bitcoin, il est maintenant à 700$ l'unité quand même. Hein, donc voilà.
Oui, mais alors les demandeurs de Bitcoin, ce sont essentiellement ceux qui veulent échapper au contrôle
étatique. Ça, je dis, c'est un des facteurs. Beaucoup d'autres vont l'utiliser pour d'autres raisons. Donc en fait, on peut pas.
Mais quelle autre raison?
Ah, mais ça, je sais pas. Je veux pas entrer un procès d'intention. Hein, j'en sais rien. voilà. Non, mais c'est pratique aussi. Ça évite de payer des taxes au passage aussi, par exemple. Sur les réseaux, pas forcément.
Pour échapper au système.
Pas forcément. Ça évite de payer des taxes au réseau bancaire, par exemple, au réseau Visa Mastercard. Ouais. Parce que quand je fais un échange en Bitcoin, je passe pas par Visa Mastercard. Donc il n'y a pas une fraction de l'argent qui est pris. Aujourd'hui, c'est les commerçants qui le payent. Les gens le voient pas. Mais quand on achète chez un commerçant, le commerçant paye quelque chose à Visa Mastercard. Bon, faut le savoir. Ouais. PayPal prend quelque chose aussi, le Bitcoin il prend rien.
Mais c'est tout le problème, c'est la communauté d'acceptation de paiement. Est-ce que par exemple, je peux aller chez un commerçant et lui dire je vais vous payer en Bitcoin?
Alors j'allais y venir. À ce point-là. Alors je continue sur ce que je disais.
Oui.
C'est pas forcément un moyen d'échapper aux taxes de l'État, c'est pas forcément voulu par les gars, mais c'est d'abord une monnaie qui coûte moins cher à l'échange, hein, déjà, donc ça lui donne un attrait. Alors après, du coup, cet attrait lui donne de la valeur, donc la valeur se matérialise. Et effectivement, c'est une valeur flottante. Mais l'Allemagne, il y a 2 mois, a reconnu le Bitcoin. Donc, pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que les entreprises l'utilisent, et donc, les entreprises ont des Bitcoins dans leur bilan, hein, ils en ont acheté, ils font des échanges avec, ils vendent des produits en Bitcoin. Du coup, le Bitcoin, il a un taux de change. Alors bon, on peut en faire une moyenne, on n'est pas obligé de prendre le taux de change instantané non plus. Hein. Et donc, du coup, ça rentre dans le bilan des entreprises, donc ça rentre dans les taxes. Donc, c'est pas un problème, ça. Voilà, donc du coup, c'est pas un souci du point de vue. Au contraire, l'Allemagne a très bien compris son intérêt de reconnaître une valeur économique comme une autre. C'est une valeur économique. C'est-à-dire, à la limite, on peut lui enlever ça. On peut lui critiquer sa notion de monnaie au sens... Elle n'est pas universelle, elle n'est pas dense dans l'économie, elle ne peut pas l'être. Et effectivement, comme tu le disais, les monnaies à dividendes universels, on va y venir, ont plus de chances d'être des monnaies, je dirais, véritablement de rupture, que c'est des tentatives qui marchent, qui montrent la faisabilité de monnaies purement numériques, en tout cas. Donc c'est ça qui est bien, et c'est une réserve de valeur, c'est un moyen d'échange en termes de valeur, mais ça n'en fait pas ce qu'on appelle, dans la théorie de la monnaie, une monnaie libre, puisque ce ne sont pas les individus qui sont co-créateurs de la monnaie, ça a été uniquement les premiers acteurs arrivés dans ce modèle Bitcoin. Donc effectivement, il y a des gens qui sont bitcoinisés et il y a des gens qui ne le sont pas.
Donc, d'accord.
Alors après, sur la communauté d'acceptation, de plus en plus, et pour l'instant bien sûr, c'est pas tout le monde, mais de plus en plus, il y a deux choses qu'il faut voir là. Parce que de plus en plus d'acteurs acceptent directement des bitcoins, des vendeurs de matériel informatique, des coiffeurs, c'est des gens qui testent ça. Alors c'est une petite part de leur business, voire quasiment pas, voire c'est de la pub qui se font. Mais peu importe, mais ça marche, il y en a qui sont que en bitcoin, j'ai vu des magasins qui vendaient que en bitcoin. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, vu qu'il y a mécaniquement eu apparition, comme dans toute chose, d'un marché de change du bitcoin, puisque des gens sont prêts à en acheter et d'autres à en vendre, puisque ça peut servir pour faire des échanges avec tout un tas de qualités. J'évite de passer par les réseaux bancaires, ça m'évite de payer des réseaux. Pourquoi je paye le réseau bancaire? Finalement, c'est des entreprises comme les autres, théoriquement les banques. Donc si je peux passer par un autre prestataire comme le Bitcoin, pourquoi pas? Donc ça, ça remet pas forcément en cause la taxation des États, comme je te l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est reconnu par l'Allemagne. Mais vu qu'il y a un marché de change, si je veux aller chez un restaurateur en bas de chez moi qui veut des euros, il prend pas les bitcoins, mais j'ai des bitcoins, il suffit que je fasse un échange de bitcoins sur le marché, j'en ai pour 5 minutes et je vais pouvoir m'acheter finalement. C'est comme si j'avais acheté avec des bitcoins ce que je vais me payer. Donc par contre, le fait de ne pas pouvoir émettre du bitcoin ne lui donne pas sa fluidité dans l'économie.
D'accord.
Voilà, mais je peux acheter tout ce que je veux dans le monde avec des bitcoins. Il suffit de faire le change préalable et il est faisable. Et il est faisable pour tout, finalement, j'ai envie de dire, en n'importe quelle valeur économique, une fois qu'elle est adoptée par une communauté critique. Alors, c'est pas forcément 10 individus, ni 100, ni peut-être 1000, mais peut-être c'est 10 000, c'est peut-être 50 000, peu importe. Mais à un certain niveau d'acceptation par un certain nombre d'individus, une monnaie finit par ou une valeur économique quelconque finit par avoir une valeur reconnue parce que il y a suffisamment d'échanges pour qu'il y ait une certaine fluidité de la reconnaissance de cette valeur. Alors c'est pas forcément une fluidité stable en quantité, mais c'est pas grave ça, parce que dans l'instant, je sais que là, c'est pas en 5 minutes, le Bitcoin ne va pas perdre non plus 90% de sa valeur. Ça va pas marcher comme ça.
D'accord.
Voilà. Donc voilà. Donc du coup, c'est des problèmes qui sont finalement de faux problèmes de ce point de vue. Par contre, et là on arrive au dernier point, c'est effectivement parce que justement il y a Internet que c'est possible. Comme tu disais, les sels, ça pouvait se limiter qu'à une acceptation locale, donc c'était forcément limité. Donc atteindre une communauté critique avec un sel, c'est délicat. Il y a finalement que la Suisse qui a réussi à faire ça. Si on considère que le vir est une sorte de sel, mais on ne connaît pas de monnaie locale qui a atteint ce niveau-là de valorisation économique sur le long terme, mais il n'y avait pas Internet jusqu'à présent. Avec Internet, je suis connecté à la planète entière en 2 secondes, quoi. Enfin, en 1 seconde, même. Je peux interagir avec énormément de gens et tout le monde peut le faire. Donc ça, et les systèmes informatiques, et bon, évidemment, ça demande beaucoup de technicité, on l'a vu avec le Bitcoin, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc, on peut envisager aussi techniquement, comme OpenUDC le fait, des monnaies à dividendes universelles. Alors, comment ça se fait très rapidement? Les principes sont simples, c'est toujours cette histoire de clé privée, clé publique. En fait, les individus sont reconnus par les autres individus parce que ces clés se signent entre elles, en fait. Donc, moi, individu, je vais signer la clé de Yolande Bresson. Et le fait que Marc de Basquiat va signer ta clé et que Jean-Jacques Brucker, le développeur d'OpenUDC, va signer ta clé et que quelques autres membres d'OpenUDC vont signer ta clé, fera que ta clé est reconnue dans la communauté OpenUDC. Donc, tu es un individu reconnu par ta clé. Et ensuite, c'est la clé qui est un instrument informatique qui sert de base de génération des unités de monnaie. Voilà.
D'accord.
Voilà. Et donc, du coup, on peut générer de la même façon quasiment que le Bitcoin. Alors, c'est un peu différent puisque c'est pas basé sur le même type d'algorithme, etc. En fait, il y a une complexité en plus. Pour faire simple, c'est ce qu'on appelle la toile de confiance OpenPGP, qui est un mécanisme informatique de gestion de clés uniques, reconnaissant des individus uniques. Voilà. Et il y a un certain nombre de mécanismes, c'est pas le sujet de l'émission. Et donc là-dessus, on peut créer une masse monétaire sur les individus, et on sait même, en fait, quel individu a créé quelle unité de monnaie. C'est-à-dire, les unités de monnaie sont finalement reconnues par les clés des individus qui ont été leur base d'émission, en fait. Voilà. Donc c'est faisable. Après, ça prend du temps, c'est beaucoup de travail. On ne fait pas une navette qui va sur Mars, évidemment, pareil que quand on fait un chariot qui traverse la rue.
Oui.
Voilà. Et bon, après.
Mais est-ce que tu essayes de la mettre au point, cette monnaie, ou est-ce qu'il y a des équipes qui la mettent au point? Il y a du travail dans ce domaine ou pas?
Alors, le travail se passe à deux niveaux. Alors, j'ai envie de dire, bon, toute l'action qui se fait autour du revenu de base, bien sûr, au sein de l'Association française pour le revenu de base, ou même le Basic Income Earth Network, etc., est une action, je dirais, de premier niveau, puisque ça sensibilise tous les esprits à la notion du temps libre, du fait que l'homme est une valeur, qu'il a une valeur, un potentiel de valeur qu'on ne peut pas mesurer et qui doit être monétisé, etc., etc. Donc les gens comprennent que finalement la monnaie, c'est aussi un instrument commun, etc. Donc ça, c'est très important, et pour moi, c'est une base, une première base. La deuxième base, pour moi, pour que les gens comprennent l'intérêt d'une monnaie dividende universelle qu'on peut mettre en œuvre tout de suite, sans attendre de transformer des systèmes monétaires qui sont massifs, dominants, qui seront très lourds à bonifier, et je ne dis pas que c'est pas possible, il faut essayer de le faire, puisqu'on ne sait pas quelle sera l'action qui finalement l'emportera, comme je te l'ai dit tout à l'heure au début. Et ça peut être les deux qui l'emportent aussi. D'ailleurs, le Bitcoin, il existe sans forcément avoir détruit le dollar. Hein. Voilà, c'est bon. Et ça, il le détruira peut-être, mais ça se fera pas en 3 jours. Et donc, la deuxième étape, c'est d'arriver à faire comprendre profondément, et là, ça demande plus de réflexion technique, les conditions mathématiques précises qui vont permettre de donner un dividende universel non arbitraire. Parce que quand on part revenu de base, alors voilà, ça part dans tous les sens. Hein. Il y a le revenu de base suffisant, le revenu de base ceci, le revenu de base cela. Ouais. Et puis, ah, mais alors pourquoi on ne voterait pas pour qu'on ait tout de suite un revenu de base trois fois supérieur ? Ça serait mieux pour tous. Alors, il faut faire comprendre, voilà, faut faire comprendre que la monnaie, faut pas non plus que ce soit n'importe quoi, sinon ça perd sa qualité. Si on annonce qu'on a une monnaie symétrique dans le temps, que chacun recevra la même part de monnaie, mais qu'on s'amuse à changer ça à un moment donné pour s'en allouer plus à notre génération plutôt qu'à la suivante, on va perdre tout l'intérêt qu'on avait mis au départ dedans. Donc il faut faire comprendre cette mécanique-là, parce que si on donne la monnaie toute cuite au départ, les gens ne vont pas forcément comprendre tout l'intérêt de l'adopter. Donc je crois qu'il y a une deuxième étape qui est d'essayer d'éduquer, de faire comprendre, de faire réfléchir, et que ceux qui comprennent, et je comprends, il y aura forcément des gens qui n'arriveront pas à le comprendre ou qui refuseront ce principe, parce que ça demande d'y passer un peu de temps, donc on peut pas convaincre tout le monde en deux jours, quoi. Voilà, ça c'est pas possible. Mais il faut faire ce travail. Et après, ce n'est que sur cette deuxième base qui est déjà plus restreinte, que parmi eux il y a des développeurs informatiques qui sont encore plus restreints, vous voyez, parce que des développeurs informatiques, il y en a aussi beaucoup, mais il y en a qui s'intéressent au Bitcoin et qui n'ont pas forcément réfléchi au problème de la monnaie dans le temps. Ou qu'on n'a pas pris la conscience du problème des cycles de crise économique ou tout un tas de trucs. Donc ça les intéresse de faire de l'informatique, mais pas forcément d'aller créer une monnaie à dividende universel, parce que en économie ils n'ont pas réfléchi autant qu'ils ont réfléchi en maths ou en informatique.
Oui, mais est-ce qu'on connaît vraiment ceux qui ont créé le Bitcoin? Est-ce qu'on peut avoir des relations avec eux?
Alors non, pour le Bitcoin non, ils ont dès le départ été anonymes.
Ils veulent rester anonymes, mais parce que ils pourraient peut-être, si on les connaissait, on pourrait se mettre à travailler, à réfléchir à une évolution du Bitcoin vers une monnaie à dividende universelle.
C'est pas la peine parce que ces gens-là sont forcément très intelligents de toute façon. Ouais. Moi j'en connais quelques-uns. On n'a pas besoin de leur expliquer. Je veux dire, ils sont capables de eux-mêmes de comprendre. Eux-mêmes, et s'ils se décident eux-mêmes à le faire, ils vont le faire. Donc c'est pas la peine. D'ailleurs, sur OpenUDC, nous on sait pas qui travaille dessus. C'est le principe d'un logiciel libre, on sait pas qui travaille dessus. C'est-à-dire que sur OpenUDC, moi je connais les fondateurs historiques et même le fondateur historique, mais rien ne nous dit que ce logiciel libre est pas déjà copié ailleurs, puisque c'est le principe d'un logiciel libre, on a le droit de le copier, c'est fait pour même. Et ils ne sont pas en train de sur la base de ce qu'on a déjà fait, de créer l'autre logiciel qui portera un autre nom, mais qui au final va faire ce pour quoi on avait travaillé. Donc en fait, on ne sait pas. Toute l'informatique, GNU Linux, personne ne sait vraiment qui a travaillé sur GNU Linux, à part le fondateur, Linus Torvald, que tout le monde connaît. Ouais. Mais à part lui, on ne sait pas. Et c'est très difficile. C'est tout le monde qui travaille dessus, en fait. Donc sur OpenUDC, c'est pareil. Quand quelqu'un fait un article de blog, ne serait-ce qu'un article de blog sur OpenUDC, il y contribue à sa façon, il en parle, donc il contribue à ce que des gens comprennent de quoi il s'agit, et on ne sait pas forcément qui c'est. Donc voilà. Donc en fait, avec Internet, on est sur un autre mode de développement, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, si c'est toujours mieux de connaître les gens pour en discuter avec eux, bien sûr, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Du moment qu'on est clair et qu'on publie son code et qu'on publie finalement les méthodes et les raisons, n'importe qui peut s'approprier ça sans en parler, y contribuer sans en parler et réaliser la chose sans en parler non plus.
D'accord. Bah oui, c'est ça, on va dans une économie de partage de l'information, c'est sûr.
Voilà, et on rejoint cette idée-là que... on n'a pas à essayer de mesurer la valeur ou de considérer que la valeur c'est que ce qu'on voit de nos yeux, entre guillemets. Heureux celui qui voit ça croit sans avoir vu, je crois que c'est ça le...
Bah oui. Oui.
Voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien avec Internet, etc., qu'on n'a pas besoin de savoir qui fait quoi pour voir que ça crée en permanence. Voilà, donc c'est d'un grand conservatisme que d'avoir peur de cet mécanisme de création qui est bénéfique dès le début. Et qui aujourd'hui d'ailleurs se voit vilipendé, attaqué. On a vu l'industrie du disque, on a vu toutes les vieilles industries qui voient finalement qui se voient mourir à petit feu. Je sais pas si elles croyaient que de façon éternelle elles pouvaient vivre sur la rente sur les autres et que les autres ne faisaient rien finalement. Comme si les autres ne pouvaient être que des consommateurs passifs. Comme s'ils n'étaient pas eux-mêmes créateurs de valeur et comme eux-mêmes ont pris un marché qui a pris sans doute la place d'anciens d'anciens modèles, aujourd'hui, il y a tout un tas d'activités qui prennent la place d'anciens modes de fonctionnement. Voilà. Il nous reste encore à libérer la monnaie, puisque la monnaie... mais c'est en train, c'est en cours. Hein. Le Bitcoin est là pour le Bitcoin est là pour le démontrer. Alors, ça veut pas dire que, comme l'ont montré les Suisses, ça puisse pas passer par une modification de la monnaie officielle. J'ai presque envie de dire que si la monnaie officielle veut rester dans la course, il va falloir qu'elle le fasse.
Eh oui, oui, je pense. Je pense aussi.
Ouais, donc on va être là-dessus. Écoute, on va arriver, on fait une belle émission là, parce qu'on prend, presque une heure et quart, 1h20. Peut-être un petit mot de conclusion sur cette année, peut-être sur les vœux pour 2014 pour nos auditeurs, Yolan.
Eh bien, j'espère que nous allons progresser dans le sens de reconnaître à chacun son potentiel de créativité, de capacité d'échange et de production de richesses, et qu'on va lui donner à chacun le minimum de monnaie et de la mise en jeu qui lui permet de participer, de jouer, quoi, par le revenu de base, le revenu de distance.
Ouais, alors moi aussi j'espère, et j'espère qu'on ne fera pas la même erreur qu'on fait peut-être dans le passé, les hommes du passé, de se créer de la monnaie pour nous. En disant on va se libérer de la crise en créant beaucoup de monnaie pour nous, en oubliant que si on ne fait pas attention, dans 40 ans, on va refaire subir une même crise à la prochaine génération qui sera sacrifiée sur l'autel de la croyance en la valeur absolue.
Eh oui. Voilà.
Alors, merci Yolan.
Merci, à la prochaine.
Merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro 46 de Monnaie Libre, et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast de Monnaie Libre, et je vous laisse bien sûr avec notre générique fétiche No More Dreams, ne rêvez plus, de Nighter. Au revoir.